Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Ella Kribi-Romdan, coordinatrice nationale de Génération, conseillère régionale d'Île-de-France. Bonjour.
Bonjour Loïc.
Alors, le Premier ministre Sébastien Lecornu a échappé à deux motions de censure. Est-ce que le PS a eu raison de ne pas voter la censure en échange d'une promesse de suspension de la réforme des retraites ?
Bah écoutez, je ne vais pas vous dire que le PS a eu raison, parce que précisément, les députés de mon parti, Génération, ont voté la censure pour dire stop à cette vaste mascarade et à cette crise politique qui devient une crise de régime plus qu'une crise politique. Et c'est une crise, je crois, sans précédent qui traduit avant tout le fait que notre régime, que la Ve République est à bout de souffle. On a aujourd'hui, avec ce gouvernement Lecornu 2, le quatrième gouvernement en un an. Si le gouvernement a évité la censure cette fois-ci, c'est pas certain que la situation reste telle quelle compte tenu des décisions politiques qui sont prises et du fait que Macron ne renonce pas à avoir une mainmise totale sur la politique nationale, alors même qu'il n'a pas pris en compte le résultat des urnes des législatives anticipées de 2024 et qu'il a refusé de nommer un gouvernement de gauche alors que la gauche, le nouveau Front populaire, était arrivé en tête en 2024. Donc aujourd'hui, la promesse de stabilité de la cinquième est tout sauf tenue.
Est-ce qu'aller vers une dissolution, ça n'est pas prendre le risque de donner le pouvoir à l'extrême droite ?
Macron ne s'est pas soucié de cette question-là quand il a décidé tout seul de dissoudre en 2024 suite aux élections européennes. D'ailleurs, il s'attendait probablement à ce que l'extrême droite remporte cette élection et c'est la mobilisation populaire qui a placé le nouveau Front populaire en tête à ces législatives et qui nous a évité l'accession de l'extrême droite au pouvoir. Macron a refusé de respecter le résultat des urnes pour maintenir sa politique à tout prix. Par cela, il a abîmé, je crois, la démocratie. Et c'est d'autant plus dangereux quand on connaît la menace de l'extrême droite. Il y a un moment où il faut redonner la parole aux électeurs. Et que c'est aux électeurs de trancher, puisque le président refuse de respecter la démocratie. Vous savez, aujourd'hui, on sait qu'il y a 3/4 des Français qui sont pour le départ de Macron, que ce soit par une destitution ou par sa démission. Les Français, aujourd'hui, souhaitent que Macron s'en aille. Parce qu'il est incapable de respecter les institutions, de respecter la démocratie, et parce qu'il veut appliquer coûte que coûte sa politique. Donc oui, on est dans une crise de régime, et c'est urgent d'en changer pour inventer une autre république, une sixième république, plus démocratique, et c'est une revendication que nous portons à gauche, et que porte mon parti Génération depuis très longtemps. Il faut qu'on sorte de cette logique présidentialiste où c'est le président de la République qui décide de tout au mépris des électeurs. Et si on devait en passer par la dissolution et par l'organisation d'une autre élection législative, même si ce n'est pas forcément la solution, c'est aussi faire confiance aux électeurs et à la démocratie.
Mais pour l'instant, Ella Kribi-Romdan, les sondages ne sont pas favorables à la gauche, une gauche qui en plus est divisée.
Est-ce qu'il faut redonner la parole aux Français en fonction des sondages ? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a un moment où il faut qu'on prenne nos responsabilités. Vous avez raison, la gauche elle-même doit prendre ses responsabilités et cesser de s'invectiver sur des plateaux interposés parce que je crois que l'intérêt de celles et ceux que nous représentons, celles et ceux qui souffrent aujourd'hui des politiques macronistes, je pense aux classes moyennes et aux classes populaires, eh bien ils ont besoin de nous, ils ont besoin qu'on se rassemble, on a su se mettre d'accord sur un programme commun en 2024. Je crois qu'il faut arrêter de surjouer les nuances, de surjouer les divergences. On le sait, entre les partis de gauche, il peut y avoir des différences d'appréciation, des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Mais on a réussi à créer du consensus en 2024. Il n'y a pas de raison que sur la base du programme du nouveau Front populaire, qui peut être enrichi, qui peut être réactualisé par l'ensemble des forces politiques de gauche, eh bien nous arrivions à nous mettre d'accord avant tout sur un projet pour les Françaises et les Français qui reviennent complètement sur la réforme des retraites, qui rétablissent de la justice sociale et de la justice fiscale, qui préservent notre système de santé, là où beaucoup de nos concitoyens n'arrivent plus à se soigner, qui répondent à l'urgence en matière de logement pour l'ensemble des Français qui ont du mal à se loger dans des conditions dignes. Et donc, cela, nous sommes parvenus à le faire en 2024, un an plus tard. Je ne vois pas pourquoi, pour des raisons, je crois, stratégiques et électoralistes, on n'arriverait pas à le faire. Je crois que c'est notre responsabilité à gauche.
Et là, Kribi Romdane, vous avez évoqué la question du logement. Les partis politiques ont vocation à trouver des solutions aux problèmes concrets des Français. Alors prenons cette crise du logement qui est particulièrement dramatique en Île-de-France. Comment la gauche au pouvoir s'y prendrait-elle pour permettre à tous d'être logés, notamment les jeunes qui viennent de rentrer sur le marché de l'emploi? J'imagine que c'est un sujet auquel vous êtes confronté directement dans votre ville de Massy, où vous êtes élu d'opposition.
En effet, alors à la fois en tant qu'élu à Massy et en tant que conseillère régionale d'Île-de-France, on le voit, l'enjeu, notamment pour les jeunes diplômés en Île-de-France, pour celles et ceux qui entrent dans le monde du travail, c'est qu'il y a de moins en moins de logements à louer et que les loyers explosent. À Paris, les loyers ont presque doublé en 20 ans. Et aujourd'hui, près d'un logement sur cinq est inoccupé dans Paris. C'est évidemment lié à la spéculation immobilière qui fait du logement un outil d'optimisation fiscale pour les plus riches. Et donc, on voit aussi nos territoires avec le problème du Airbnb qui est plus rentable et moins contraignant pour les propriétaires. Et donc, on voit bien qu'il y a un vrai problème des jeunes à accéder au logement. Je le vis dans ma ville de Massy aussi, alors qu'on est en banlieue. Les jeunes qui ont grandi à Massy et qui veulent rester s'y installer ne le peuvent pas. Parce que le choix de la municipalité ces dernières années, ça a été de détruire des logements sociaux, de laisser les bailleurs revendre leur parc social parce qu'ils n'ont pas envie de l'entretenir, et qu'on voit la ville se gentrifier progressivement en prenant comme prétexte la nécessité de mixité sociale. Mais détruire les logements sociaux, c'est pas faire de la mixité sociale, parce qu'on le sait, 75% des Franciliens ont droit au logement social, sont éligibles au logement social. Et donc faire du logement social, c'est répondre aux besoins de la majorité des Franciliens et de plusieurs catégories de population, des classes moyennes aux classes populaires. Et donc moi, dans mon territoire, à Massy, il y a plus de 5000 familles du territoire qui sont en attente d'un logement, et je ne compte que celles qui ont placé Massy en premier choix. Comment on fait dans une ville de 50 000 habitants quand on sait que 5 000 familles sont en attente d'un logement, sont donc mal logées? Il faut des solutions concrètes. Arrêter de détruire les logements sociaux et choisir de les réhabiliter. Prévoir dans toutes les nouvelles constructions un quota de logements sociaux. On sait qu'il y a plusieurs typologies de logements. Ça, c'est un travail qu'il faut que nous menions avec les bailleurs, et c'est un travail qui doit être poussé par l'État, par les politiques nationales, mais aussi par la région, qui se désengage de plus en plus du financement des logements sociaux dans les territoires. Il faut exiger des villes qu'elles appliquent la loi SRU et qu'elles prévoient dans toute opération de construction de logements une part de logements sociaux pour que les Franciliennes et les Franciliens dans nos territoires puissent se loger.
Et là, Kribi Romdane, certains Français peuvent être désorientés face au spectacle de la vie politique nationale au vu de la crise gouvernementale de ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français qui disent qu'il n'y a pas de grande différence entre la droite et la gauche, notamment au niveau municipal? Il va y avoir des élections municipales. Est-ce que l'étiquette politique compte autant que cela?
Alors, ce n'est pas qu'une question d'étiquette, c'est avant tout une question de projet et de conviction. Je veux dire, mettre des logos les uns à côté des autres, ça n'a pas tellement de sens, je crois, pour les habitants. Et ça n'a même pas de sens pour moi, qui suis pourtant engagée à gauche. Ce qui compte, c'est avant tout le programme que nous proposons, c'est l'ancrage local, le fait qu'on soit en phase avec les préoccupations quotidiennes. Moi, je suis tous les jours. Moi, vous savez, je fais partie des élus, et c'est malheureusement, ça devient hélas de plus en plus rare, qui vivent dans le territoire dans lequel ils sont élus. Moi, vous savez, j'habite à Massy. Mes enfants sont scolarisés à l'école publique à Massy, au collège public de Massy. Mes activités du quotidien, quand je rentre du travail le soir, elles sont dans ma ville. C'est le cas de toute ma famille. J'y ai grandi. Et donc, je crois que c'est ce qui fait aussi qu'on est un élu, une élue, proche des préoccupations quotidienne de nos concitoyens et que du coup, les programmes que nous mettons en place, que nous défendons à l'échelle régionale, nationale comme locale, collent aux préoccupations et aux aspirations de celles et ceux qu'on croise tous les jours. C'est ça qui fait qu'on est légitime avant tout, et c'est pas l'étiquette avec laquelle on peut arriver quelques jours, quelques mois avant une élection. Et je crois qu'on tire aussi notre légitimité finalement du peuple et de cette connaissance du terrain. Donc oui, il y a une différence entre la droite et la gauche. À Massy, on a aujourd'hui un maire de droite qui a bénéficié en 2020 du Covid et de la très faible participation pour être élu pour la première fois pour ce qui le concerne. Mais ça fait 30 ans que la droite est aux responsabilités à Massy et on le voit. On le voit, je le disais il y a un instant, parce que c'est la droite qui détruit les logements sociaux, parce que c'est la droite qui a bétonisé sans réfléchir le territoire et donc qui a livré cette ville aux promoteurs immobiliers sans réflexion sur la vie quotidienne et sur les services nécessaires du quotidien. C'est la droite qui a laissé partir les services publics. On n'a plus de commissaires à Massy, on n'a plus d'agences de Pôle emploi, aujourd'hui France Travail. On a des services postaux qui sont fragilisés. Bref, la population a largement augmenté, mais la droite, aux responsabilités à Massy, a laissé se creuser les inégalités entre les habitants des quartiers les plus anciens, des quartiers les plus populaires et des nouveaux quartiers qu'on a laissé livrer aux promoteurs sans réfléchir aux services publics nécessaires, aux commerces de proximité dont ont besoin les habitants. Donc la différence entre la droite et la gauche, je crois, y compris à l'échelle locale, c'est le fait que à gauche, on pense que la puissance publique doit prendre toute sa place dans la résolution des problèmes, que ça ne va pas se faire par un claquement de doigts ou par le bon vouloir des promoteurs, et que à gauche, on est très attaché aux services publics et au fait que c'est le service public qui est le patrimoine de ceux qui n'ont rien ou qui ont si peu et qui permet aussi de résoudre le problème des inégalités et du vivre ensemble dans nos territoires.
Et pour terminer, j'aimerais revenir à la politique nationale. Le fait que Sébastien Lecornu se soit engagé à ne pas utiliser le 49-3, est-ce que c'est une opportunité pour la gauche d'essayer de faire passer une partie de son programme ?
Oui, je crois que c'est un premier pas, parce que le 49-3, c'est devenu le symbole de cette concentration du pouvoir entre les mains d'un exécutif tout puissant. C'est le symbole de la brutalisation du débat politique et du débat démocratique sous l'ère Macron. Son usage à répétition a fait beaucoup de mal, a dégoûté les Français de la politique. Et je crois que sa suppression, d'ailleurs, sur le plan institutionnel, serait quelque chose de très fort. Et donc, il faut que ça puisse permettre de défendre, dans le cadre des débats budgétaires, des amendements, de pouvoir peser et de mettre chaque force politique face à ses responsabilités sur les reculs sociaux prévus dans le budget par la Macronie. La prochaine étape, en effet, c'est de pouvoir mener des débats parlementaires où chacun assume ses positions pour la préservation des droits sociaux des Françaises et des Français, pour la lutte contre les discriminations. Et moi, je suis très inquiète de ce qui se profile dans le budget de l'État, notamment qui cible les étudiants étrangers en prévoyant la suppression des APL pour les étudiants étrangers, qui cible les populations d'origine étrangère à travers des choix politiques budgétaires qui les fragilisent. Et donc, c'est toujours un peu plus de terrain cédé par la Macronie à l'extrême droite. Il y a de quoi nous inquiéter sur l'état de notre pays, et puisque vous parliez de la différence entre la droite et la gauche, je crois que la gauche ne cède pas un millimètre de terrain à la question des discriminations, à la question de la lutte contre le racisme et à la question de l'égalité républicaine qui doit être au cœur de notre projet à tous les échelons, que ce soit l'échelon national ou l'échelon local.
Merci Ella Kribi-Romdan. Je rappelle que vous êtes coordinatrice nationale de Génération, conseillère régionale d'Île-de-France. Merci.
Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.